feuille blanche.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Dans le premier volet de son 40 nuances de Next, Rodolphe Ardan, cofondateur et dirigeant de Spendesk, a partagé en long, presque en large, en tout cas le maximum possible sur l'aventure Spendesk, les défis rencontrés, les défis à venir aussi. Tout de suite maintenant, place à l'homme derrière l'aventure entrepreneuriale. On va parler de toi.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
On est dans le calme et la relaxation.
Avant la tempête.
Non, mais on voit que Rodolphe est quelqu'un qui a l'air d'avoir un tempérament plutôt calme. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Quel genre de chef d'entreprise es-tu? Et est-ce que tu as évolué entre le début de Spendesk et après?
Et même, je dirais, depuis ta première aventure entrepreneuriale jusqu'à aujourd'hui, oui.
Ouais, ça, on peut en parler pendant un petit moment aussi. Quel genre de chef d'entreprise est-ce que je suis
Est-ce que tu mets la pression sur les gens? Est-ce que tu crées le tempo ou est-ce que tu vas
je suis quelqu'un qui fait énormément confiance et qui travaille beaucoup pour mériter la confiance des autres. Mon profil MBTI, je sais pas si ça parle aux gens, oui. Myers-Briggs.
C'est lequel?
Je suis introverti et je suis très introverti. Je suis I, je suis N. Intuitif, je suis
S.
T, un bon ingénieur.
Ah, ok. T, c'est le dernier.
Et je suis J. Donc, souvent, les profils.
T'es J, ouais.
Je crois que c'est profil architecte. Souvent, c'est les méchants dans les films. C'est Darth Sidious.
T'as beau sourire, ça pourrait.
C'est celui qui est
avec une cape noire, ça tirait bien.
C'est celui qui est un peu tout seul et qui imagine sur comment conquérir le monde. C'est un peu dans Minus et.
Et Cortex.
Ouais, Cortex, ouais, c'est Cortex, quoi.
Alors, qu'est-ce qui fait que tu es passé du côté du bon côté de la force?
Écoute, je pense que quand j'ai construit, enfin du coup, avant de démarrer une nouvelle aventure entrepreneuriale, je me suis vraiment posé les questions sur pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire. Ayant vécu ce roller coaster émotionnel d'énergie que l'entrepreneuriat peut demander et que j'adore personnellement, enfin en termes de métier. Je me suis quand même dit la question, qu'est-ce qui va te faire lever le matin dans les moments où tu sais ça va être dur, parce qu'il y en aura des moments où ça sera dur. Et c'est devenu assez clair pour moi, et j'avais envie de remonter une aventure entrepreneuriale pour deux choses. Un, avoir l'opportunité ou la chance de construire une référence, construire une norme, je ne sais pas sans savoir si on y arrivait, mais vraiment me dire un peu comme Google a construit cette nouvelle norme d'accès qu'on peut avoir à l'information, de me dire, en fait, est-ce que j'ai envie de travailler sur un produit et un service qui sera utile à des millions de personnes, d'être cette référence. Je ne sais pas si on va y arriver, mais fondamentalement, j'ai envie de donner l'effort, de l'énergie pour le tenter. J'avais envie de remonter une boîte pour avoir l'opportunité de construire une belle organisation, une belle boîte.
En interne.
En interne, c'est finalement comment est-ce qu'on construit une organisation quand on se regarde un peu dans le miroir tous les matins. En fait, on est fier de ce qu'on a fait. Comment est-ce qu'on construit une boîte où les gens qui sont passés par cette boîte, pendant la période où ils sont passés, quand ils regardent en arrière, ils se disent, c'est 10 ans que j'ai passé dans cette boîte. C'était vraiment les bons moments de ma carrière professionnelle. Et bon, les deux sont assez aspirationnels. Je pense qu'on va faire plein de bêtises en avant, mais en tout cas dans le type de décision, dans qui on a envie d'être, sur ce qu'on est en train de construire, c'est quelque chose qui nous guide vraiment au quotidien.
Je reviens du coup, c'est une super question, je crois qu'on va lancer tous les seconds volets sur quel chef d'entreprise es-tu. Mais du coup, sur ta première aventure entrepreneuriale et la nouvelle, tu disais qu'il y a eu effectivement des moves, en tout cas une autre approche. Laquelle et pourquoi?
Je pense que quand on a démarré notre première boîte juste sortie d'école, hein,
on peut rappeler le nom.
Ouais, Mosaïque. Donc pour donner un parcours, je fais une école d'ingénieur et sortie d'école, on a démarré avec un camarade de promo qui est depuis un très très bon ami, une première aventure entrepreneuriale. Et je pense que ce qui nous drivait à l'époque, honnêtement, on ne s'était pas posé de questions, trop de questions. C'était on se voit pas prendre un boulot avec un costard, on a envie d'être le maître de nos actions, on va être hyper successful sans avoir une vraie définition du succès.
Donc un rapport très personnel à l'aventure entrepreneuriale au départ.
Ouais, où en fait il n'y a pas vraiment de question sur le pourquoi, sur qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, sur fondamentalement qu'est-ce que tu es en train d'établir.
Est-ce qu'il y avait des entrepreneurs dans ta famille par exemple?
Assez lointain, c'est-à-dire un oncle entrepreneur ou une famille, enfin, lui et sa femme ont monté un business au Brésil. Et oui, ça a peut-être été une inspiration, je sais pas, c'est une bonne question. Mais à l'époque, c'était plus notre volonté entrepreneuriale était plus une logique d'ingénierie. C'est en fait, on a envie de construire des trucs et on a envie de voir si on peut arriver à développer un truc sur le marché, quoi. Et cette première aventure entrepreneuriale n'a pas été facile. Hein. Je pense qu'on a fait toutes les erreurs que de bons ingénieurs font quand ils démarrent un business. Hein. La plus grosse étant, on adore développer une solution technique,
un super produit,
on s'éclate, mais en fait, il n'y a pas vraiment de business derrière. Ça nous a pris 2 ans avant de se rendre compte. Après, on a itéré, on a fait un bon truc, puis finalement, un de nos gros clients nous a dit « ce que vous faites, c'est trop border, on ne fait pas ». Donc voilà, et on a réitéré, faire un truc qui marchait très bien, qu'on a fait racheter par PageOne. Et je pense que sur troisième itération, tu sors d'une grande école française, tu t'es mis une sorte de pression sociale sur la réussite, sur le succès, etc. Et tu te dis, ça fait 3 ans et demi là, que je ne me paye pas, que je bouffe des pâtes.
Là où les copains qui ne sont pas partis dans l'aventure entrepreneuriale, eux se payent.
Que je rejoins mes copains quand on va à un dîner, en fait, j'arrive pour le café parce que je ne peux pas payer l'addition. Qu'est-ce que tu es en train de faire alors?
On partage en 7.
C'est ça. Donc j'ai eu une grosse remise en question, tu vois, en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie, quoi? Enfin, pourquoi est-ce que je fais ça? Et d'ailleurs, je pense que mon cofondateur m'a vachement aidé à ce moment-là, parce qu'il était hyper solide sur ses convictions entrepreneuriales, où moi, une période vraiment difficile, en me disant, et je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement,
tu as pu avoir envie d'abandonner à certains moments.
Ah oui, mais largement là. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi,
ouais.
Tu vois.
Et je m'en suis. Qu'est-ce qui fait que t'es resté?
Bah, je pense que ça a été un long travail un peu sur moi. Je me suis rendu compte que finalement, je m'étais fixé des mauvais objectifs. C'est-à-dire que cette notion de succès, cette notion de réussite, c'était pas ce qui me donnait de l'énergie au quotidien. Ce qui me donnait l'énergie au quotidien, c'était vraiment cette aventure humaine qu'on pouvait avoir ensemble avec mon cofondateur. C'était cette capacité à face à un problème d'y amener des solutions. Et qu'en fait, le quotidien, le tous les jours, ce qu'on faisait me donnait de l'énergie. C'est ça que j'aimais. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, ça m'a donné une paix d'esprit vis-à-vis du succès, de l'échec,
de l'argent.
Et finalement, je me suis rendu compte, finalement, il n'y a pas d'autre métier où j'aurais été plus épanoui au quotidien. Et du coup, et à partir du moment où cette réalisation a été faite, quand on est parti sur une troisième itération produit, ça s'est hyper bien passé avec un rachat par PageOne.
Je comprends bien, pardon, une fois que tu as trouvé le sens de pourquoi finalement la question d'arrêter se pose plus, mais comment t'arrives à cette conclusion?
Mais en fait, parce que c'est pas évident, t'as pas une réponse comme ça, tu sais, c'est un peu. Je pense que La connaissance de toi, c'est des choses qui se développent en accéléré quand tu fais face à des crises, que ce soit des crises personnelles ou des crises professionnelles.
À la fois le meilleur et le pire.
Exactement. Je pense que personnellement, ça a été une chance de vivre ça assez jeune. Je rencontre j'ai 40 ans aujourd'hui, je rencontre encore plein de gens dans mon entourage en 40 ans qui commencent à avoir ces crises existentielles plutôt à ces périodes-là. Parce que ça m'a donné, et peut-être que j'en aurai d'autres plus tard, mais là, en tout cas, ça m'a donné une confiance, une paix d'esprit par rapport à ce que je voulais être, ce que je voulais faire, où finalement toute ma pression sociale, tous les trucs d'ego, de pression sociale que j'aurais pu avoir sur l'environnement dans lequel j'ai grandi, mais académique.
Évolué ensuite.
Ouais, exactement, complètement disparu.
Et à quel point, c'est toujours la question un peu taboue, et donc on a le droit de l'éviter, mais on peut éviter d'y répondre, mais moi je la pose quand même. À quel point, du coup, quand tu parles du terme successful, donc c'est avoir du succès, ça a plein de définitions possibles, il y a plein d'acceptions possibles du terme, mais est-ce que l'argent en fait partie? Tu parlais de payer l'addition au restaurant, etc., mais au-delà de ça, est-ce que c'est un ressort chez toi? Parce que tu as dit non, bah finalement c'est plus le quotidien, l'ingénierie, mais j'essaie toujours de creuser un peu ce point-là, parce que la réalité c'est qu'il y en a qui assument complètement. On renvoie l'excellent podcast d'Ornicard, hein, avec Benjamin Guignot, qui lui parle très facilement d'argent. Il y en a certains qui disent non, moi, l'argent c'est pas du tout un ressort. Parfois on a du mal aussi à les croire, parce qu'on sait que c'est un peu tabou dans certains cas, enfin en tout cas en France.
Oui, parfois c'est peut-être très sincère.
Et puis parfois ça peut être sincère, bien sûr, non, mais tout n'est pas blanc ou noir, mais quel est ton rapport à ça? Et aussi avec les autres associés, éventuellement, est-ce que ça peut être un sujet?
Je pense qu'il y a... Je suis quelqu'un qui a peu de besoins matériels. Tu vois, je passe mes vacances à la montagne avec un sac à dos à me balader dans les montagnes. C'est pas des trucs qui coûtent beaucoup d'argent. Donc finalement, j'ai une courbe...
Sauf si tu achètes ta propre montagne pour être tout seul dessus.
Potentiellement. Mais si tu veux, je pense avoir une courbe... Il y a toujours quand même une désolé pour la vision un peu mateuse, mais tu vois, patrimoine, qualité de vie qui sature assez vite. Je dis pas qu'elle est à zéro, hein, mais qui sature assez vite. Donc finalement, il y a un niveau, et par rapport à d'autres gens, je pense qui est plutôt faible ou rapidement. Finalement, ça fait pas une énorme différence pour moi et ça changera pas ma différence.
De quoi couvrir tes besoins.
Donc ça a été un driver sorti d'école. Ça l'est plus du tout. Ça l'est plus du tout aujourd'hui. Ça l'est rapidement plus été.
Et ce driver, il était lié à la comparaison.
Il était lié à la bien sûr, à la comparaison et à la définition, en effet, qu'on peut se donner de qu'est-ce qu'est le succès, qu'est-ce qu'est la réussite.
Très bonne réponse.
Je sais pas, en tout cas, c'est la mienne.
Tu parlais d'un de tes associés et on est dans la partie très personnelle de ton podcast. Je te propose d'écouter une question de Vincent Gire, donc ex-associé et encore ami. Décidément, tu t'entends toujours bien avec tes ex-associés, on l'écoute.
Vous avez un message.
Tu as connu des expériences entrepreneuriales à plusieurs et d'autres en tant que solo founder. Ta prochaine start-up, tu fais quoi?
Donc j'ai connu des expériences entrepreneuriales à plusieurs, donc avec lui et tout seul. Alors tout seul, c'est je pense qu'il fait référence à lorsqu'on a démarré avec eFounders, j'étais tout seul avec eux et ensuite mes cofondateurs qui m'ont rejoint un petit peu plus tard.
C'est peut-être un premier début de réponse au final.
Ouais, entreprendre seul, c'est dur, mais je le vis aujourd'hui. Je pense qu'on a une relation donc avec Guillaume, hein, qui est notre cofondateur, vu que le timing de création s'est fait de manière un peu différée, qui est une relation peut-être un peu différente de ce que j'avais avec Vincent, premier associé. On a vraiment construit le business depuis le début à deux. C'est plus facile de... Enfin, c'est plus facile, en tout cas, c'est plus réconfortant à partir du moment où il y a une bonne symbiose d'entreprendre à plusieurs que d'entreprendre seul. Entreprendre seul, quand on doit tirer la machine tout seul, tout le temps...
Notamment dans les moments de doute que tu évoquais tout à l'heure, où il n'y a personne pour...
Voilà, tu as tes moments de doute. Alors ça, en fonction de ta maturité personnelle, maturité, je ne sais pas si c'est le bon terme, plus, voilà, mais même juste en termes d'effort, hein, c'est-à-dire que tu es quand même la locomotive, donc l'énergie que tu dois donner dans ton système, elle est forte. Parfois, c'est pas mal d'avoir... J'ai toujours cette image de l'entrepreneuriat comme étant une image assez mateuse, hein, mais une sinusoïde à forte amplitude et à haute fréquence. Ça, c'est ton cycle émotionnel. C'est pas mal lorsque tu as un cofondateur où de temps en temps, t'as pas tout à fait le même cycle. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut prendre le relais avec l'autre et tu peux te partager les enjeux. Mais tu vois, quand il y a un vrai coup dur où c'est toi qui es tout seul à 2h du mat, à essayer de le gérer, et finalement tout le monde a éteint la lumière à part toi, bon, il y a un moment où t'aimerais bien être deux, quoi. Au moins deux.
Ben c'est vrai que moi, je le vois maintenant que je suis passé du côté des VC avec le fonds 2050. En tant qu'investisseur, je trouve compliqué de me faire une opinion sur un dossier s'il y a un solo entrepreneur, comme on dit, parce que j'ai toujours un doute sur le fait, enfin, étant passé par la case entrepreneuriale aussi, sur le fait que même si la personne est très intelligente, talentueuse, d'abord que ça puisse être un homme ou une femme orchestre, d'une part, et puis aussi les complémentarités associées au tempérament, au moment dont on sait qu'il sera parfois plus difficile sur le plan moral, etc. Donc,
oui, des phases
je perçois ça comme un risque d'être seul.
Et en même temps, il y a beaucoup de boîtes qui se plantent parce que les associés s'embrouillent aussi.
Oui, non, voilà. Mais bien sûr, quand on investit, moi, je regarde moi, personnel, mais ça peut se discuter avec d'autres. Non, il y a le business, mais il y a vraiment les personnes avant tout. Mais effectivement, si c'est une personne seule, je trouve que c'est risqué. Mais si c'est plusieurs personnes, bah, il faut regarder les facteurs de risque associés à cette association en particulier, c'est-à-dire la répartition du capital, est-ce que la complémentarité des caractères et des compétences mais quand même, existe, mais quand même avec un alignement évidemment sur la direction, etc.
Quand tu étais jeune, tu voulais déjà être entrepreneur ?
Je savais pas ce qu'était entrepreneur, mais j'étais le gars qui résolvait le problème des autres.
C'est bien résumé.
J'aimais quand j'étais petit, j'aimais bien ça.
Tu laissais les copains copier ?
Ouais, je laissais les copains copier, mais même sur des petits problèmes, ouais, j'aimais bien résoudre des problèmes.
T'as un souvenir là qui te revient
Des trucs. Tu sais, des jouets cassés, des trucs... Enfin,
c'est le MacGyver de la cour de récré.
Est-ce que tu as un papier de chewing-gum?
Ouais, exactement. Je me rappelle pas quel métier est-ce que j'ai... je savais pas quel métier. Par contre, j'étais en effet assez passionné de science. Hein. C'est quelque chose qui est très, très curieux et j'aimais bien les expériences. Donc voilà, un peu nerd, un peu geeky étant petit, ouais.
On parlait dans le précédent volet de ton 40 nuances de Nex du monde d'après. Et tu parles de science et je peux pas m'empêcher de faire une parenthèse là-dessus, mais on est dans un monde où une partie du monde voit plus la science comme un point d'ancrage pour se mettre d'accord, se projeter. Et je serais curieux de savoir comment toi tu le vis en tant que peut-être entrepreneur, mais aussi en tant que citoyen.
C'est quelque chose qui m'interroge énormément et sur lequel j'ai pas été confronté en direct. Je sais pas comment je réagirais face à une discussion où en effet on enlève la logique scientifique. Et je pense que ça me perturberait complètement. On rentre dans des logiques de croyance versus des logiques de factuelles. Parce que c'est tellement dans mon schéma de pensée, c'est de se dire bon, on a une hypothèse, on va essayer de trouver l'information pour pouvoir la valider, et puis une fois qu'on a nos faits, bon bah c'est quelque chose que. Et à partir du moment où en fait on dit non mais tu me présentes ça, mais en fait j'y crois pas. Mais c'est pas une question de croyance. Là je suis en train de te montrer. Et je pense que j'aurai un blocage, une sorte de bug interne là-dessus. Je pense que c'est vraiment vraiment difficile à appréhender d'un point de vue de citoyen, d'un point de vue de société, parce que les réponses à amener là-dessus sont des réponses qui sont émotionnelles et donc des logiques potentiellement de manipulation qui peuvent s'opérer et qui peuvent donner, faire pencher la balance dans un côté, dans un côté. Donc je trouve ça extrêmement dangereux, c'est-à-dire que on revient un peu.
En fait, pardon, pour être sûr de bien comprendre ce que tu dis, c'est que pour répondre à des croyances, il faut aussi aller dans l'émotionnel pour arriver.
Et dans les croyances, c'est-à-dire qu'il faut répondre. Enfin, il faut utiliser ses croyances, en fait, exactement. Puisque finalement, il n'y a pas de réponse à une logique scientifique. La logique scientifique, c'est il y a pas de réponse. C'est je n'y crois pas.
Alors après, je sais plus qui j'entendais là-dessus. Je me demande, c'était pas Axel Kahn qui disait, à un moment sur le Covid, je crois que c'était, il faut les amener dans les morgues pour projeter en fait ce que c'est. Ou quand on parle d'une maladie infectieuse, venez voir. Par contre, vous ressortirez pas. Et est-ce que vous prenez le risque? Est-ce que votre croyance va vous immuniser?
Ouais, mais bon, on peut aller loin là-dessus. C'est, tu vois, tu non, peux mais dire. C'est, et encore, et parfois,
cette idée de constater les faits par de ses yeux quand c'est possible, parce que la Terre est plate. Quand on regarde tout sur l'horizon, c'est plat effectivement.
Ouais, mais bon, tu vois, tu peux. Je suis pas sûr que ça fasse une différence. Tu as toujours une idée, c'est un complot, c'est n'importe quoi, c'est un jeu qui est joué, c'est une scène. Tu peux toujours, quand t'es c'est fort sûr. Dans tes croyances, tu peux rentrer dans la mauvaise foi, quoi. Donc ces enjeux finalement de communication, de manipulation qu'il peut y avoir derrière, en tant que citoyen, je trouve ça particulièrement dangereux.
Je fais un parallèle pardon, sur l'entrepreneuriat, parce que tu dois te baser sur des faits pour prendre des décisions. Et en même temps, est-ce que quand on parle de vision, c'est pas aussi une forme de croyance? Et après, on va trouver les faits pour...
Tu ne peux déplacer des montagnes en quelque sorte que si dans un collectif que si on a une vision commune. Si t'as besoin de jouer sur de la croyance. Mais en fait, c'est des croyances qui sont... Que tu transmets en tant qu'entrepreneur parce que tu y crois toi-même, tu construis l'histoire et tu rends l'histoire réelle. Mais j'appelle ça plus une logique de. Et en fait, petit à petit, en effet, tes faits, tes actions vont t'amener vers cette vision. C'est quelque part une définition du leadership, hein. C'est cette capacité, plutôt que de partir, tu vois, du problème, de la peur, de se dire, en fait, je pars de la. de ma vision, de quelle est ma vision du monde, quelle est ma contribution finalement pour le monde et comment mes actions vont permettre de le faire. Comment est-ce que je tiens le volant de ma vie, quoi. Donc oui, t'as raison. Je pense qu'il y a un partage. Si ton collectif ne croit pas dans les mêmes choses, on parlait de la culture, Olivier, je pense que, un, ta culture n'est pas là. C'est et vrai. Deux, en termes d'engagement, de l'effort que tu peux arriver à, les gros chantiers dans le monde sont quand même... les gros accomplissements de l'humanité sont quand même revenus sur des croyances communes. Donc c'est un facteur qui est très fort, mais c'est un facteur qui est souvent rationnel. C'est-à-dire que tu as besoin de l'expliquer sur des croyances,
sur des faits,
tu vois. Si je crois X parce que regardez ce qu'on voit, etc. Donc ça a construit ton raisonnement qui certes est avec une certaine ambiguïté,
c'est un prisme.
Exactement, voilà. Mais qui emmène en effet les gens avec toi dans ton aventure entrepreneuriale.
Un mot avant de passer à la suite, on n'a pas refait toute l'enfance, mais peut-être que ce sera pour un autre volet, sauf si tu as l'anecdote de ton enfance qui a construit l'homme que tu es aujourd'hui, qui devient assez spontanément.
On a beaucoup vécu à l'étranger quand j'étais petit, en suivant mon père qui avait une carrière internationale.
Tu as vécu dans quel pays ?
J'ai vécu en Italie, j'ai vécu en Grèce, et ensuite je suis rentré en France pour mes études.
Donc tu parles couramment grec et italien,
je suis tout perdu.
Non, vraiment, je connais bien la Méditerranée.
Exactement. Non, j'ai tout perdu.
Ça forge quoi ? Parce que...
plusieurs choses en bien, en mal. Je pense que tu t'en rends pas compte quand t'es petit, quand t'es gamin. Quand t'es petit, t'aimes pas, hein, fondamentalement.
Tu dis, ça déracine.
Ouais, ça déracine complètement. Je me suis créé quelque chose, je repère tout, faut tout que je reconstruise. Une première fois, tu crées des relations, il faut que tu les recasses et tu reconstruis ça, etc.
Est-ce qu'on en arrive à se dire, je ne crée plus de relations?
C'est intéressant. Je pense que j'étais passé par une phase comme ça et, en fait, ce qui était encore plus intéressant, c'est de voir ce que, tu vois, quand t'arrives dans un nouveau pays, dans un contexte, c'est de voir les personnes, dans ces lycées étrangers qui, eux, sont restés. Et eux, typiquement, toi, c'est une question de survie, t'as besoin de créer des relations, sinon t'es vraiment tout seul. Tu vois, quand t'arrives dans un nouveau pays, endroit, communauté, t'as besoin d'aller créer un relation. Même pour un mec assez introverti comme moi, justement, je pense que ça m'a un peu poussé à le faire. Mais, à l'inverse, les communautés qui restent, qui, eux, ont construit ces relations, les ont perdues, ont reconstruit ces relations, les ont perdues, au bout d'un moment, se resserrent énormément entre eux. Et c'est quelque chose que tu vois en évolution dans tes classes, ou en fait, dans les petites classes, t'as pas ce passif. Donc finalement,
pour chacun,
personne n'a, tu vois, cette série de construction de deuil, parce que finalement, c'est ce qui se passe. Ou finalement, c'est extrêmement ouvert. Et plus tu grandis, donc il y a aussi évidemment la maturité des gens qui changent, mais plus ces groupes sont extrêmement fermés, extrêmement opaques.
Et difficiles à intégrer.
Exactement.
Et du coup, ça, tu...
Donc du coup, écoute, moi, je pense que ça, quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte de la chance que j'avais pu avoir en termes d'ouverture d'esprit, curiosité intellectuelle, que naturellement, ça avait pu m'amener... sans avoir fait des efforts conscients, tu vois. Donc c'était vraiment un plus. Et en effet, une capacité à s'adapter, je pense, dans des nouvelles situations assez rapidement. Donc je pense que c'est une bonne qualité de l'entrepreneur. Ouais.
S'inspirer. Respirer.
Dans cette petite rubrique, Rodolphe, on aime bien aussi comprendre d'où peut venir l'inspiration des entrepreneurs, sachant qu'évidemment, une grande partie de l'énergie consacrée à développer une entreprise, elle est quand même dans le secteur professionnel, dans le milieu professionnel. Et malgré tout, il y a peut-être des inspirations ou des respirations. Les respirations, c'est comment est-ce qu'on trouve l'oxygène qui permet aussi de ne pas se retrouver en burn-out. Parfois, c'est par la culture, parfois par le sport, parfois par le voyage ou d'autres choses. La famille est souvent venue. Il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui évoquent la famille aussi comme peut-être port d'attache ou voilà, point de ralliement et repère dans la frénésie. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais partager avec nos auditeurs qui peuvent se demander comment est-ce qu'on fait pour survivre à toute cette énergie qu'entraîne l'entreprise?
Écoute, c'est une Je ne sais pas si j'ai une réponse, je vais essayer de parler de ce qui me donne ou ce qui me coûte de l'énergie. En termes d'inspiration, personnellement, c'est plus un peu une curiosité permanente en me disant, tiens, comment ça marche ce truc? Pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je me pose beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Et en fait, je m'inspire pas mal de ça. Je m'inspire aussi beaucoup des autres. Je suis quelqu'un qui apprend par l'exemple. Dès que je vois un comportement, quelque chose d'intéressant, en fait, je l'intègre dans mon prisme de réflexion et ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Plutôt que de purement un apprentissage théorique où je vais lire un bouquin, ça va m'amener un peu de réflexion. C'est plus par l'expérimentation et notamment observer quelqu'un qui fait quelque chose que j'apprends plus vite.
Et est-ce qu'il y a des gens en particulier qui ont pu t'inspirer ou qui ont pu, par observation ou admiration ou autre? Pas forcément des gens connus, enfin, ça peut être des gens connus, mais ça peut être aussi dans l'environnement proche. Mais...
Ça peut être mon ancien associé, tu vois, dans sa manière de fonctionner, ça m'a donné un nouveau prix. Ça va être des collaborateurs dans leur manière de voir les choses, où en fait j'apprends tous les jours en me disant, tiens, en fait j'avais pas vu le truc comme ça, mais en fait c'est raison, c'est beaucoup plus... ça peut être dans notre ancienne entreprise ou maintenant nos investisseurs qui me partagent leur expérience ou ce qu'ils ont fait, comment ça a marché, je l'intègre dans mon prise. Mais c'est souvent des petites choses du quotidien. Enfin, tu vois, c'est plutôt des expériences où, suite à une discussion, suite à un travail en collaboration, où en fait, je me dis, tiens, en fait, là, j'ai appris quelque chose que je vais pouvoir intégrer un peu dans mon modèle. Donc, c'est pas quelqu'un, une personne où je me dis, tiens,
c'est plus une analyse de système de pensée ou d'action.
Pas forcément consciente tout le temps, si tu veux, mais en fait, face à une même problématique, je vais me retravailler, je vais revoir ce que cette personne a fait. Je me suis dit, tiens, en fait, c'est peut-être comme ça qu'il faut le faire.
Est-ce qu'il y a malgré tout une lecture, un film pour rebondir sur ce que disait Olivier, que tu aimerais partager avec nous, que tu nous conseilles? Qui a peut-être changé un regard, une façon de penser?
Il y en a plein.
J'ai ralenti le débit pour te laisser le temps de réfléchir.
Le temps de réfléchir, c'est gentil Thomas.
Et c'est là que Rodolphe va nous apprendre qu'il ne sait pas lire en fait.
Mais il répare les jouets. Et on ne peut pas tout faire à l'école. Hein.
C'est le talent des mains.
Là, la musique d'attente est dépassée.
C'est terminé quoi. Non mais écoute, un livre que je ne sais pas si c'est un apprentissage, mais un de mon best-seller que je relis tout le temps, c'est Dune. Alors Dune, c'est un truc
lié au film Dune, ouais, c'est ça. Ouais,
mais
Dune.
Mais c'était un roman, tu sais, de Frank Herbert.
C'est un roman de Frank Herbert.
Mais j'ai dit film, oui, t'as raison, mais moi je suis plus film.
C'est parce que t'es la jeune génération.
Il est très science-fiction. Ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est à quel point il a réussi à construire, à concevoir un univers cohérent et sur lequel il arrive à nous. Pas donner des leçons, mais des explications à la fois d'un point de vue religion, politique, économique. Enfin, la richesse sous-jacente qu'il peut y avoir dans ce bouquin, qui est basée à la base juste sur une contrainte de ressources qui existe uniquement dans une planète. Mais donc, c'est assez un sujet d'actualité d'ailleurs.
C'est encore une fois, j'ai l'impression que c'est un sujet de système.
Je pense que c'est dans ma manière de réfléchir, c'est quelque chose que j'aime, enfin que je regarde. Ouais.
Bon, après, c'est vrai que les ingénieurs, souvent, aiment bien la science-fiction. Ouais. C'est quand même relativement cohérent, parce que la science-fiction, c'est aussi...
Je dois avoir un côté ingénieur, hein, peut-être.
Ouais, c'est possible.
Je le découvre. sans transition, alors une question que je voulais te poser tout à l'heure de ton associé Vincent, on l'écoute.
Vous avez un message.
Tu construis une scale-up, et avec l'arrivée de la petite troisième, une famille nombreuse à la maison. Est-ce que licorne et enfants en bas âge sont compatibles? Et si oui, donne-nous ton secret.
Seulement avec une peluche.
Ouais, c'est pas facile. Hein. Enfin,
une peluche de licorne.
Ouais. Je pense que tous les entrepreneurs qui ont des enfants savent que c'est pas facile, mais en même temps je trouve ça super. J'ai trois filles moi. Mon aînée elle a bientôt 7 ans, ma dernière elle a 6 mois.
Pendant le lancement de félicitations d'ailleurs au passage, mais pendant le lancement du coup de Spendesk, la première.
Elle est née au moment où je partais d'une page blanche avec eFounders.
On dit feuille blanche ici.
Ouais. Pardon.
Non, je déconne.
C'est bien. Donc, naissance d'un enfant, naissance de deux bébés en même temps, à la fois l'entreprise et ma fille, quoi.
C'est quoi qui est le plus facile? C'est lancer, du coup, en parallèle, une jeune aventure de vie et une aventure entrepreneuriale, ou la troisième de six mois, un moment où t'es en pleine phase de croissance avec peut-être plus d'équipes, plus de gens sur qui t'appuyer, en même temps plus d'enjeux?
Non, enfin, je pense que rien n'est facile, mais en même temps, c'est voulu. Donc, du coup, on s'organise en fonction on s'organise en fonction. Ça fait un peu robot, mais le premier point, c'est, je pense, j'ai eu une vraie discussion avec Juliette, ma femme, avant de démarrer, en se disant où est-ce que ça peut nous emmener, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, et comment est-ce que, enfin, c'est un projet qu'on fait à deux, quoi.
Mettre les contraintes sur la table d'avance.
Ouais, ou en tout cas se dire est-ce qu'on est in, est-ce qu'on est in ensemble, sinon en fait on n'y arrivera pas, quoi. Et après le deuxième point, jouer avec ses priorités au quotidien, ça a toujours été pas évident. La naissance d'Emily, notre deuxième, c'est arrivé au moment où on était en plein dans le dur de la levée de fonds de la série. Elle est rigolote, cette histoire, parce que le en 2019, on s'était dit bon, il y a un moment, il va falloir planifier notre série B. Je me dis voilà, bonne planification, ça sera fait. Alors attends, on attend la deuxième. Elle est prévue de naître le 11 juin. Il faut absolument que j'ai closé ce truc-là avant.
Donc tu fonctionnes par cycle de 9 mois, du coup. Levée de fonds,
on avait signé, on a signé
d'où la deuxième levée de fonds dans la foulée.
On a signé notre term sheet le 10 juin, tu vois, ouais. Donc c'était genre wouhou. Sauf qu'Emily était née le 10 mai avec un mois d'avance, donc là pour le coup j'ai un mois fichu, quoi.
Bon, comme quoi on peut pas exactement prévoir, le terme n'est pas prévu, mais bon, c'est pareil pour les term sheets, on parle de term sheet. C'est pas toujours possible de prévoir.
Donc on s'adapte, hein, on s'adapte. Mais il n'y a pas forcément de réponse là-dessus pour Vincent. Je pense que cet équilibre, tu parles de respiration, cet équilibre pro-perso, c'est ce que je te disais, Thomas, avant l'interview. Je préfère réfléchir en allocation de temps sur des passions. Ma vie pro, c'est une passion. Dans ma vie perso, il y a plein de choses qui sont des passions. Ma famille, c'est une passion. Lire, c'est une passion. Marcher en montagne, c'est une passion. Donc finalement, face à toutes ces différentes passions, quel temps est-ce qu'on alloue dedans et à quels différents cycles? Parce que tout n'est pas possible en même temps. Donc quels différents trade-offs est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre?
Alors on a l'impression qu'il a un tableau de bord hyper professionnel avec de la data visualisation, temps alloué à la famille, tac, tac, tac. Ouais, et puis avec des indicateurs et peut-être des profit warning. Attention, attention. Pas assez de temps en montagne.
Ses enfants réservent directement des créneaux.
Là, on est dans l'esprit de l'ingénieur. On est à l'intérieur.
Mais c'est plutôt.
C'est de la science-fiction.
Je pilote plutôt à l'émotion.
Ouais, oui, bien sûr. Je taquinais.
On échangeait aussi avant d'ouvrir le bal de ton 40 nuances de Nec sur la charge mentale du dirigeant. Je serais curieux que tu repartages ces réflexions avec nous.
Oui, je pense que là. La charge mentale du dirigeant, elle est évidemment présente. Tu me posais la question, qu'est-ce qui tient éveillé la nuit? Je pense que tout entrepreneur, parfois tu dors très très bien. Même c'est souvent, honnêtement, souvent je dors très très bien. Il y a deux moments en fait où ça te, t'as soit les moments où c'est négatif, c'est-à-dire que t'as un problème que t'arrives pas à résoudre, t'as une conversation difficile à avoir, tu sais pas comment l'aborder, ça te prend la tête tant que tu l'as pas eu, tant que tu sens pas de ce, en fait quand tu l'as, souvent après tu soulagement, mais pendant ce temps-là, tu vois, c'est difficile, t'as un sentiment d'anxiété, ça c'est les moments. C'est le moment où t'aimes pas être réveillé la nuit et t'es là, tu tournes en rond et en fait t'as presque envie de décrocher ton téléphone et avoir la conversation maintenant pour pouvoir le sortir.
Je vois très bien ça.
Parce que Olivier parlait de burn-out, ça a eu des incidences sur la santé, ta santé?
Non, c'est plus manque
c'est
de sommeil.
Après, ouais.
Manque de sommeil avec trois enfants en bas âge, au bout d'un moment tu t'habitues. Et t'as l'autre type de réveil qui est pas bon non plus pour ta santé parce que tu dors pas beaucoup, mais qui est beaucoup
exactement.
Plus
ton excitation, ouais.
C'est ton excitation, c'est là t'as une idée, tu vois un truc, t'arrives pas à le lâcher, et puis tu t'endors et tu te réveilles une heure après, tu dis ah, tiens, je repensais à ça, etc. Ouais.
Et les créatifs et les artistes ont ça aussi parfois, ça m'est arrivé de discuter avec des musiciens ou des peintres, etc., mais ils peuvent du coup ne plus arriver à dormir parce qu'il y a cette excitation de la création, et donc se retrouver à 4h du matin en train de composer un truc ou d'écrire, etc.
Mais je rebondis juste là-dessus, je sais pas si je t'en avais parlé, Olivier, si on en a déjà parlé dans un précédent 40 nuances de Next, mais Alexandre Astier, je ne sais pas si vous connaissez, celui qui a écrit Kaamelott, qui a composé Kaamelott, enfin bref, ce mec est un génie. Ouais. Lui, son truc, c'est qu'il se réveille, il met des réveils à 3h, 4h, 5h du mat, sa femme doit être folle, parce qu'il est persuadé qu'à travers, toi qui parlais de système, à travers les systèmes de ses rêves,
les cycles de sommeil,
il va trouver de nouveaux systèmes de pensée qui vont l'aider à écrire. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Fin de parenthèse, c'est quand même ton 40 nuances de Next.
Ouais, j'en suis pas là. mais ce truc-là où en fait tu dors pas, et c'est pareil, t'as en fait, en termes de discipline, t'apprends au bout d'un moment. Mais moi, je me lève et puis je fais le truc, je le note, j'essaie de creuser mon idée au
Combien
fond.
Combien d'heures tu dors par nuit?
Pour être bien, j'ai besoin de 8 heures, Olivier.
Ça, c'est bien si tu y arrives, effectivement. Ah, ouais. Parce que là,
j'ai besoin de 8 heures. C'est un peu dur en ce moment, mais j'essaie d'avoir mes 8 heures.
Bon, alors on se dépêche.
Je me couche très tôt.
Très rapidement, je vois le timing. Questions courtes, réponses les plus courtes possibles. Premier apprentissage entrepreneurial.
En école, on voulait faire un truc, un boîtier radio pour bateau, avec le même associé avec lequel on a démarré Osaic. Ça s'appelait Weatherway. On avait monté une structure, une boîte.
Ça a coulé.
Complètement.
C'est coulé.
Premier renoncement.
Premier renoncement entrepreneurial.
En fait, pas forcément, tu réponds comme tu veux.
Ouais, parce que je suis parti sur entrepreneurial. Un autre projet, on voulait faire pendant les études, on voulait faire de la location de maison entre particuliers. On a imaginé un système de partage de clés, etc. Puis après, on est passé à autre chose, on a complètement renoncé. Ouais.
Premier coup de culot.
Oh, j'en ai pas beaucoup, ça. Je suis quelqu'un de assez honnête.
C'est tes associés, ouais.
Ouais, tendance à être un peu le gars rationnel. Ouais, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête.
Et quelle est ta première levée de fonds?
C'était avec Osaic, où c'était une levée de fonds Friends and Family, TEPA, en 2007.
Première erreur. Sur Spendesk.
Alors j'avais 18 mois.
Ouais,
j'ai essayé de me lever.
J'ai fait tomber ma glace.
La première erreur sur Spendesk. Ça a été d'aller chercher des fonds VC trop tôt. En fait, ça nous prenait du temps, on n'y arrivait pas, personne croyait au truc. Et finalement, on s'est retourné, on allait voir des angels et ça a été bouclé en 2 semaines.
Pour finalement retrouver les VC 2-3 ans
tard,
après.
Quand ils se sont dit, tiens, en fait, finalement, c'était pas mal ce truc.
Une question de timing. On parle des apprentissages, je te propose de partager celui qui a été le plus structurant avec la claque.
La claque, quand est-ce que je me suis pris une bonne claque? On s'en prend souvent, hein, en entrepreneuriat. Ma grosse claque, ça a été, enfin la première claque que j'ai prise, ça a été sur l'aventure Osaic avec Vincent, sur le voilà notre première aventure et projet entrepreneurial où on adorait enfin développer ce qu'on se faisait, mais en fait je me rappelle justement de cette claque. On s'était toujours dit ouais, mais la monétisation ça sera facile, on va faire de l'affiliation, on va faire etc. Et c'était l'époque des pages personnalisables, et notre premier projet c'était pages personnalisables. Je sais pas si vous vous rappelez de cette boîte, ce produit qui s'appelait NetVibes. Mais on avait rencontré le CEO de cette boîte, Freddy, qui nous avait dit ah, c'est intéressant votre truc. C'est quoi vos objets de monétisation? Affiliation, voilà. Et il nous avait partagé, mais de manière hyper transparente. Tu vois, NetVibes, moi j'ai 20 millions d'utilisateurs. Tu vois, l'affiliation, ça paye 200 balles par mois. On a fait what? Du coup, ça a été une claque. On s'est dit, mais en fait, on est nowhere. On n'a pas de business. Il faut qu'on imagine notre truc.
Et même pas 20 millions d'utilisateurs
On avait nos 10 000, si on était. Ouais, voilà. Je pense que c'était une bonne claque. Ouais.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Alors tu as peut-être préparé, j'espère que tu avais été au courant que tu avais une carte blanche, sinon il va falloir improviser et ça va être...
Non, on fait bien notre taf, hein, Méline, merci.
L'idée effectivement c'est que tu aies cette tribune durant laquelle on ne t'interrompt pas, sauf si c'est complètement nécessaire.
Mais, je pars en vrille.
Faites-le taire.
Baillonnez-le. C'est pas pour les enfants.
Non, écoute, je pense que c'est un coup de cœur à partager. Un coup de cœur, c'est à quel point... Sur les 15 dernières années, j'observe un mindset un changement de mindset positif vis-à-vis de l'entrepreneuriat en France. Je suis extrêmement impressionné par l'évolution qu'il y a pu avoir. Nous, quand on est sorti d'école avec Vincent, sur une promotion de 500 personnes, on était 5 à lancer une boîte. Une bonne école d'ingénieurs en France, on était 5 à vouloir lancer une boîte.
C'est quelle école ?
On était à l'école Polytechnique. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais à mon avis, je ne me trompe pas en disant qu'un tiers d'une promotion travaille soit dans la tech, soit lance un projet et lance une boîte. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est il y a une question d'ambition qui est là pour certains de vos aventures entrepreneuriales, mais pas que. C'est aussi cette, encore une fois, ce changement un peu de mindset en partant d'une logique de peur. Est-ce que je vais avoir la bonne carrière? Est-ce que je vais avoir le bon métier? Est-ce que finalement je vais être reconnu dans ce que je fais? Et en fait, une abstraction en se disant, en fait, non, j'ai des projets qui me tiennent à cœur, une vision qui me tienne à cœur et des entrepreneurs qui veulent construire. Ouais. Et je trouve que le mindset en France, et c'est en train de plus en plus en Europe, et a complètement changé. Et devient extrêmement intéressant et prometteur pour le futur.
Ça ne t'aura pas échappé, mais Polytechnique peut amener à une grande carrière de première ministre, mais sur 40 nuances de Next, ça peut amener à une carrière de président.
Française, français.
Moi, Christophe.
Moi, président.
Voici ma proposition aux Français.
Je suis un Européen convaincu et en tant qu'entrepreneur aujourd'hui opérant beaucoup en Europe, je pense que ma proposition est vraiment, je crois de manière extrêmement forte que pour construire notre futur en France, il faut qu'on construise un futur européen. Et je crois, je pousserait des propositions pour aller beaucoup plus loin en termes de fonctionnement européen, en termes de politique sociale, en termes de politique fiscale, en termes de politique d'emploi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en fait, quelle beauté ce serait de pouvoir travailler dans n'importe quel pays où on le souhaite en Europe, de manière simple, de manière harmonisée. Je pense que chaque pays européen apporte un certain nombre de ressources, de talents, de spécificités locales qui sont extrêmement riches et sur lesquelles on a énormément encore à construire. Alors qu'aujourd'hui, on est encore dans une logique très...
Encore de compétition?
Ouais, non, on commence à travailler ensemble, mais on se tire quand même pas mal à bord. Il y a encore pas mal de logiques nationalistes dans nos réflexions. Chacun tire quand même un peu la couverture de son côté. Et surtout, on a une institution européenne qui représente aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais quelque chose de très technocratique, très bureaucratique, et qui, en tout cas, dans la vision des choses de ce qu'on peut arriver à construire, qui est loin finalement de cette vision des États-Unis d'Europe qu'on aurait souhaité construire au début de l'Europe.
On a bien compris qu'avec Spendesk, la bureaucratie, ça, c'était quand même un sujet à craquer.
Il faudrait avoir la Commission européenne comme client.
Ouais. Ouais. Peut-être le dernier sujet à craquer, c'est la féminisation du monde entrepreneurial et celui de la tech, et du coup aussi celui du Next 40.
Alors, tu connais la rubrique Sista de 40 nuances de Next, donc de ton 40 nuances de Next, qui te permet de mettre un coup de projecteur ou de mettre en lumière une entrepreneuse qui aura ensuite... qui aura le privilège d'être interviewé par notre associé Solène, et puisqu'on lui consacrera une émission qui est la 40 nuances de Sista.
J'ai envie de mettre en avant Morgane Ohana, qui a travaillé chez Spendesk et qui est parti de chez Spendesk pour démarrer sa boîte, une société qui s'appelle De Facto. On commence à avoir en effet des... pour moi, c'est quelque chose qui me rend extrêmement fier lorsque la fibre entrepreneuriale se diffuse. pas que je sois responsable pour quelque chose, mais fondamentalement le fait que l'organisation ait donné cette envie d'entreprendre, cette envie de voler dans ce, enfin
le côté exemplaire et puis l'inspiration qui peut découler de du fait de vous avoir vu à l'œuvre aussi.
Oui, et puis de se dire en fait c'est possible, donc on y va quoi.
Oui.
On y va. Et Morgan, c'est une personne que je trouvais exceptionnelle dans sa manière de voir les choses, de construire les choses, dans l'énergie qu'elle peut dégager. Donc je pense que ça sera quelque chose de très
intéressant. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais envie de lui poser et qui le sera par l'intermédiaire de Solène?
Ouais, je pense que Morgan, avec ce que tu as pu vivre justement, et je sais que lorsque tu avais démarré ta carrière, tu te posais beaucoup de questions sur qui tu avais envie d'être, ce que tu avais envie de construire, un peu en minimisant les prises de risques que tu pouvais avoir. Si tu te parlais à la Morgan d'il y a 8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle démarre sa boîte immédiatement?
Super question. Très bonne question, on devrait la garder celle-là.
Et qu'est-ce que tu dirais, toi, pour conclure immédiatement?
Bah écoutez, j'ai été ravi de ces échanges aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Plaisir partagé.
Écoute, merci beaucoup. Surtout que tu as plusieurs fois dit que tu étais introverti, en tout cas dans ton profil, et on n'a pas ressenti ce point-là. Donc tu partages avec honnêteté et transparence, et c'est effectivement un peu le jeu qu'on aime jouer avec 40 nuances de Next, parce que l'idée c'est aussi le rôle modèle, d'inspirer les autres et donc de partager sans crainte. Merci.
Merci à vous deux.
40 nuances de Next.
Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.